Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Si vous nous rejoignez à l'instant sur antenne de CNews et sur Europe 1, il est 17h56. Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont donc les deux finalistes de la primaire Les Républicains. Les militants les ont placés en tête, reléguant Xavier Bertrand en avant-dernière position et Michel Barnier en troisième position. C'est Philippe Juvin qui ferme la marche. Le résultat du second tour aura lieu samedi à 14h. Michel Barnier, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse et Philippe Juvin ont déjà appelé à rejoindre Valérie Pécresse. On verra ce que cela signifie pour cette droite qui commence la campagne présidentielle. Éric Ciotti sera notre invité exceptionnel tout à l'heure à 18h30 et Valérie Pécresse sera là dans un instant aux alentours de 18h dans le studio de Punchline ici à Europe 1 et à CNews. Ils ont choisi tous les deux nos deux antennes pour leur première interview. Après ce premier tour donc et cette affiche surprise, je vous propose d'écouter rapidement les réactions des protagonistes.
Je suis le seul à pouvoir battre Macron en rassemblant tout le peuple de droite. Marine Le Pen représente, comme son père, l'assurance-vie du système socialiste et macroniste depuis trop longtemps en place à la tête de notre pays. Éric Zemmour, s'il dresse le constat lucide du déclin français, porte par son déclinisme et ferme la porte à l'espérance indispensable au renouveau français. Je suis donc le seul candidat qui peut permettre le rassemblement de tous les électeurs de droite, d'où qu'ils viennent, comme a su le faire Nicolas Sarkozy en 2007. Ma candidature incarne le seul véritable vote utile pour gagner.
Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Je sais ce que sont les combats difficiles. Je sais les remporter. Je suis une femme qui gagne et qui fait. Cette élection présidentielle, je m'y suis préparée. Mon projet est abouti, il est puissant. Mes projets de loi seront prêts, car ce qu'on ne fait pas dans les 6 premiers mois, on ne le fait jamais. Mon équipe, elle est là, avec Michel, avec Xavier, avec Philippe et bientôt tous les autres.
Je n'ai pas réussi à convaincre pour pouvoir figurer au second tour et pour l'emporter. Alors maintenant, le plus important pour moi, c'est ce rassemblement, sont les valeurs que nous portons et c'est cet idéal pour lequel je continuerai à me battre. Je vais rejoindre Valérie Pécresse à son quartier général pour lui témoigner mon soutien et j'ai aussi indiqué à Christian Jacob que samedi prochain, j'étais bien évidemment disponible pour montrer que tous les candidats à ce premier tour se rejoignaient, se retrouvaient derrière celui ou celle qui l'emportera pour ce congrès et qui défendra nos couleurs et nos valeurs à cette élection présidentielle. C'est l'engagement que j'avais pris depuis le début, c'est l'engagement que je tiens. Quel que soit le vainqueur dans ma famille politique, je m'engagerai à faire campagne, mais je souhaite que ce soit Valérie Pécresse qui l'emporte. Les militants, les adhérents ont tranché, et à partir de ce moment-là, je fais ce que j'avais dit, c'est-à-dire m'engager pour que ce soit notre famille politique qui puisse l'emporter. Mais je pense que pour l'emporter, cela passe par la victoire de Valérie Pécresse.
Je voudrais de tout cœur remercier les adhérents et les militants qui m'ont fait confiance, très nombreux. J'étais très très fier de mener cette campagne d'une manière respectueuse et digne et avec une équipe qui m'entoure ici et qui était formidable. Je voudrais d'ailleurs aussi féliciter Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Il s'agit de l'élection présidentielle, comme je l'ai dit tout au long et encore dans le dernier débat. Il s'agit d'élire le nouveau président de la République. Et pour cette élection et pour la gagner, je pense aujourd'hui que Valérie Pécresse est la mieux préparée. Et voilà pourquoi je lui apporte mon soutien.
Voilà pour cette primaire Les Républicains. Valérie Pécresse et Éric Ciotti sont nos invités exceptionnels ce soir. C'est parti pour Punchline.
Europe 1, Punchline. Laurence Ferrari.
Et il est 18h pile si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Bienvenue à tous et à toutes. Dans un instant, Valérie Pécresse sera notre invitée exceptionnelle, suivie d'Éric Ciotti. Ce sont les deux finalistes de ce premier tour de la primaire LR. Tout de suite, on va rejoindre devant le siège des Républicains notre envoyé spécial, Élodie Huchard. Élodie, c'est une affiche surprise qui est sortie de ces votes électroniques des militants.
Oui, exactement. Et c'est surtout une affiche qu'on a enfin pu connaître après beaucoup de suspense. Parce que pour vous raconter un petit peu comment s'est passée la journée ici au siège des Républicains, les votes étaient clos à partir de 14h. Et à cette heure-là, le premier qui a été au courant des résultats, c'était Christian Jacob, le président du parti. Il a ensuite communiqué les résultats aux proches des candidats qui étaient physiquement présents. Mais attention, on avait retiré les téléphones portables à ses proches qui n'ont pas pu prévenir, notamment ceux qui étaient au QG ou ceux qui étaient en circonscription. On a donc eu un grand moment de fébrilité dans l'entourage des candidats. Et puis effectivement, c'est à peine quelques minutes avant l'arrivée de Christian Jacob qu'on a connu effectivement plusieurs surprises. D'abord, la qualification d'Éric Ciotti. Dans sa déclaration, il l'a dit, on m'a un peu trop sous-estimé finalement. Lui qui avait fait un début de campagne relativement discret, qui s'était en fait révélé lors du premier débat à un moment donné où Valérie Pécresse, Xavier Bertrand étaient plutôt concentrés sur Michel Barnier. Il avait pu finalement développer son programme plutôt tranquillement. Et puis évidemment, la deuxième surprise aussi, c'est le fait que Xavier Bertrand soit éliminé de ce second tour. Lui qui disait qu'il était le vote utile, qu'il était le plus à même de battre Emmanuel Macron. Cet argument n'aura pas convaincu. On le sait aussi chez les militants, le manque de loyauté qui lui était reproché a pu coincer et finalement n'a pas été pardonné. Un petit mot aussi des ralliements, vous l'avez dit effectivement. Philippe Juvin, Michel Barnier, Xavier Bertrand, tous appellent à voter pour Valérie Pécresse. Arrêtons-nous aussi sur un instant sur cette image. Valérie Pécresse à ses côtés, Xavier Bertrand, Philippe Juvin. On a beaucoup parlé au début de cette campagne d'un ticket entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, mais dans la tête de Xavier Bertrand, c'était lui qui menait le ticket. Finalement, c'est la situation inverse qui se produit aujourd'hui. Du côté d'Éric Ciotti, on n'est finalement pas si inquiet de ces ralliements. On explique que personne n'est propriétaire de ses voix, que les militants pourraient être agacés de ces combines politiciennes, nous a dit un porte-parole. Et puis, à noter aussi la suite du programme, c'est un second tour express, puisque le vote reprend demain à 8h. On connaîtra exactement de la même manière les résultats samedi à 14h30 avec une annonce de Christian Jacob. La promesse du parti, elle était claire, c'est d'avoir tous les candidats rassemblés dès le 5 décembre. Et puis en fait, le vrai lancement de campagne aura lieu le samedi suivant, le samedi 11 décembre, le où la gagnante fera un grand meeting entouré par ceux qu'il aura ou qu'elle aura vaincu lors de ce congrès et de tous les cadres du parti.
Merci beaucoup, Élodie Bichard, avec Sacha Robin devant l'état-major des LR. Rapidement, Céline Pina, c'est une affiche surprise, mais finalement, ça incarne un peu les deux pôles de la droite aujourd'hui. Le pôle Éric Ciotti, très à droite, et le pôle assez ferme aussi, avec de l'autorité de Valérie Pécresse.
En fait, il y a une différence, mais elle n'est pas si énorme que ça. Ce qu'a Valérie Pécresse, c'est la possibilité d'aller capter un électorat qui est un électorat plus centriste, d'élargir énormément la palette et surtout d'être vue comme la seule à même de battre Emmanuel Macron et donc de rallier tout un centre-gauche républicain qui est aujourd'hui orphelin, qui n'a plus d'offre politique et qui pourrait tout à fait faire ce choix-là pour voter contre Macron sans tomber dans les extrêmes. Donc elle est extrêmement bien placée pour la suite.
Joseph Massescaron, c'est une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron, ce ticket Ciotti-Pécresse avec des ralliements en faveur de Valérie Pécresse d'ores et déjà.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que, en fait, la droite est de retour et, surprise, la droite est de droite. Voilà. Et la droite est de retour, et pour Emmanuel Macron qui pensait éparpiller façon puzzle la droite comme il l'a fait de la gauche, comme il l'a fait pour la gauche, comme il l'a fait notamment pour le Parti Socialiste, et qu'on voit qu'il est toujours un grand cadavre politique à la renverse, eh bien, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe parce qu'il y a eu une primaire qui a été extrêmement bien tenue, il faut le dire. Il y a eu un vote électronique qui s'est extrêmement bien déroulé, et surtout, il y a eu en effet des débats télévisuels, et ces débats télévisuels ont été de haute tenue.
Voilà. Ils ont changé la donne.
Ah oui, ils ont vraiment changé la donne. C'est-à-dire qu'on peut, on peut très bien ensuite, après, contester les propositions qui ont été faites, mais ce qui est vrai, c'est que ce sont des propositions, et de vraies propositions. Or, il va falloir que, du côté de La République En Marche ou du côté de cette maison commune, on arrive à un projet. Parce que cette fois, c'est plus possible. Emmanuel Macron ne peut pas faire comme il l'a fait lorsqu'il a fait son livre projet Révolution. Il va falloir qu'il ait lui aussi un programme.
Tatiana Renard-Barzac, effectivement, est-ce qu'il y a un grand perdant ce soir? Et est-ce que c'est le président Emmanuel Macron?
Il y en a deux, c'est Emmanuel Macron évidemment, mais c'est aussi Xavier Bertrand, le grand perdant, parce que autant Michel Barnier, on le disait favori, mais au final, il ne perd pas grand-chose. Xavier Bertrand se voyait vraiment un destin national, se voyait vraiment une ambition présidentielle, se projetait à long terme. Et donc, c'est vrai que pour lui, là, il se recroqueville sur ça, comme il l'a dit dans son discours, hein, sur sa région, 6 millions d'habitants. Mais on voit mal comment il va pouvoir se remettre de cet échec cuisant. Et c'est vrai qu'il paye là son incohérence. Il avait dit qu'il mènerait campagne seul. Et puis, il s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire campagne sans l'appui d'un parti, sans la structure d'un parti, bien évidemment. Donc, il est revenu, il s'est réencarté chez les Républicains. Et puis, il se rend compte qu'il est assez seul. On se rend compte qu'il n'y a pas de réseau Xavier Bertrand. Il s'est rallié tout de suite à Valérie Pécresse. Il a été très fair-play. Mais à la fois, est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il avait un autre choix? Non, très honnêtement. Et donc, c'est lui le deuxième grand perdant. Et bien sûr, Emmanuel Macron, est un énorme perdant parce qu'il a face à lui une femme. Donc,
attendons samedi, hein, quand même, Tatiana.
J'allais donner les deux options, justement. Une femme ou bien quelqu'un qui est très ferme sur ses positions régaliennes, avec des propositions très fortes. Et on sait que c'est là où le bât blesse chez Emmanuel Macron. C'est le régalien, c'est l'insécurité, c'est l'immigration. Alors qu'il est face à quelqu'un qui a une expérience folle en la matière, qui depuis des années travaille sur ces sujets. Et donc, dans les deux cas, de toute façon, c'est un problème. Et enfin, oui, Emmanuel Macron est perdant parce qu'il pensait que la droite républicaine était morte. Ouais. Et même si elle ne se qualifie pas pour le second tour, ça on le verra, en tout cas, elle a montré qu'elle pouvait être forte, rassemblée, et surtout avec un éventail infini de compétences. Parce que ces débats, ils ont aussi montré, comme le dit Joseph, en fait, on avait sous notre nez un président ou une présidente potentielle et un gouvernement aussi, parce qu'il faut le dire, on a vu différentes compétences, on a vu un ministre de la Santé, un ministre du Travail, un ministre des Affaires étrangères, donc oui, il y a une droite qui est forte, qui est présente, qui est en ordre de marche et surtout qui est unie et complète, contrairement peut-être à un candidat Éric Zemmour qui est très seul aujourd'hui face à cette droite républicaine.
Karim Zerebi, la surprise pour vous, c'est qu'Éric Ciotti soit en tête et que finalement ce soit cette droite de droite, qui d'ailleurs avait voté François Fillon en 2016, les portait en tête.
Alors c'était une surprise, Laurence, avant les débats. Si on nous avait émis ce pronostic, nous aurions tous dit c'est pas sérieux, parce que nous pensions que les trois premiers candidats se partageraient entre Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier. Et on pensait que Ciotti allait être plus proche de Juvin que de se retrouver en tête. Or, il y a eu les débats. Et au moment des débats, certains candidats se sont révélés pugnaces, audacieux et, j'ai envie de dire, authentique aussi dans les propositions qu'il formulait, que l'on soit d'accord ou pas. Ça a été le cas d'Éric Ciotti, qui était très à l'aise et qui était décomplexé. Et je crois que cette droite décomplexée, droite nationale, comme il l'appelle, qui se rapproche de d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, mais quelque part, ces militants de LR, et pour une partie d'entre eux, ils ont voulu la plébisciter. Et puis à côté, il y a aussi Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui s'est affirmée dans les débats. On connaît la solidité de cette femme politique, on connaît son parcours, mais là aussi, elle a surpris favorablement. Et c'est une affiche à laquelle on ne s'attendait pas, mais qui peut rebattre les cartes de cette élection présidentielle. Parce que selon ce qui va se passer samedi, effectivement, pour Emmanuel Macron, la donne sera pas
allez,
la même.
Valérie Pécresse est notre invitée exceptionnelle ce soir. On écoute un extrait de son discours et elle s'installe sur le plateau.
Ce premier tour des primaires a été un formidable succès pour la démocratie militante. Du fond du cœur, je remercie toutes celles et tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage. C'est un honneur et c'est une force qui affermissent ma volonté de servir la France, comme l'ont fait Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Ces 113 000 votes sont une terrible dérouillée pour tous ceux qui prétendaient que la droite était divisée et à terre. Du côté de l'Élysée, ils vont devoir réécrire leur scénario, car nous sommes unis et debout. Je salue le résultat d'Éric Ciotti pour ce premier tour. J'adresse aussi aux autres candidats, ainsi qu'à leurs électeurs, une pensée chaleureuse et fraternelle. Michel, Xavier, Philippe viennent de m'apporter leur soutien. Je veux leur dire toute mon amitié et toute ma reconnaissance. Ce soutien m'honore et il m'oblige. Avec eux, avec leurs équipes, avec tous leurs élus, je rassemblerai notre famille politique et je m'appuierai sur tous ces talents. Nous avons une formidable équipe de France dans nos territoires. Nous allons faire campagne sans relâche ensemble. Nous gagnerons unis, nous gouvernerons unis.
Bonsoir Valérie Pécresse.
Bonsoir.
Merci d'avoir choisi CNews et Europe 1 pour votre première interview. On vous voit à l'instant féliciter de ce bon résultat, mais vous arrivez néanmoins en seconde position derrière Éric Ciotti. Est-ce que c'est une petite déception pour vous ou pas du tout ?
D'abord, ce qui est une formidable nouvelle, c'est que la droite est debout, que la droite a une équipe de France très crédible. Les militants se sont passionnés pour cette élection. Les Français ont beaucoup regardé nos débats et on a déjoué tous les pronostics. Voilà.
Ça a changé la donne, les débats télévisés, pour vous ?
Ah ben, je crois que ce qui était important, c'était le projet. Moi, vous savez, j'ai été formée par un Nicolas Sarkozy qui disait que, contrairement à ce qu'on entend dire, c'est les projets qui font gagner. Et c'est vrai que j'assume d'avoir un projet qui était sans doute plus puissant, peut-être plus à droite, plus réformateur, à la fois sur l'immigration, le régalien, mais aussi sur les réformes économiques, parce que je crois qu'il faudra revenir sur les 35 heures, qu'il faudra faire les réformes qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de faire, et face au mur de la dette et des impôts, prendre un certain nombre de décisions courageuses.
Il y a déjà des ralliements qui se sont prononcés en votre faveur, je pense à Xavier Bertrand immédiatement, Philippe Juvin et Michel Barnier. Vous allez reprendre certaines des mesures que eux ont proposées au cours de cette primaire ?
Alors, ce qui est important, c'est pour battre Emmanuel Macron, il faut à la fois un projet puissant, je viens d'en parler, mais il faut aussi une capacité à rassembler toutes les sensibilités de la droite. J'ai cette capacité à rassembler autour de moi toutes les sensibilités, à la fois la sensibilité sociale, la sensibilité européenne, mais aussi la sensibilité régalienne portée par Éric Ciotti. Je suis au barycentre de la droite. Et c'est pour ça que je pense que je peux battre Emmanuel Macron et faire revenir à nous à la fois des électeurs qui sont tentés de voter plus à droite et des électeurs qui aujourd'hui ne voient pas qu'Emmanuel Macron emmène le pays dans le mur.
Donc les électeurs plus à droite, ce sont ceux qui sont tentés par Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Ceux-là, vous leur tendez la main, vous leur dites « Venez, dans mon programme, il y a tout ce qu'il vous faut ».
Moi, je ne lâche jamais rien. J'ai tenu 9 mois face à la rue au moment de la réforme des universités. J'ai arraché une région qui était très à gauche, d'ailleurs face à une gauche qui avait perdu sa boussole républicaine, qui faisait alliance avec les islamo-gauchistes. Je la dirige, j'ai été réélue. Donc je suis une femme qui gagne et une femme qui fait, y compris les batailles difficiles.
Vous parlez beaucoup du fait que vous êtes une femme, c'est une évidence. Vous pensez qu'il peut y avoir un réflexe femme, que si vous êtes désignée samedi prochain à l'issue du deuxième tour, les femmes peuvent se mobiliser pour vous ?
D'abord, c'est une question d'audace, parce que la droite républicaine n'a jamais eu de candidate femme. Donc c'est un peu transgressif, c'est un tabou à briser. Mais ce que je dis à tous les sympathisants, c'est oser une femme qui tient. Quand on voit Angela Merkel, pendant 17 ans, elle a défendu uniquement les intérêts des Allemands. C'est pas ce que fait Emmanuel Macron, qui donne des leçons au monde entier, alors que la France se prend des camouflets, camouflet après camouflet. Parce qu'on ne respecte pas un pays qui est en déficit. On ne respecte pas un pays qui est désindustrialisé. On ne respecte pas un pays qui a tous les samedis des manifestations dans ses rues.
Donc vous pensez que ce réflexe femme va jouer en votre faveur, plus que pour Marine Le Pen ou Anne Hidalgo, qui sont les autres femmes en compétition ?
Mais moi, je ne joue pas sur le fait que je suis une femme. Je joue sur le fait que j'ai un leadership qui est un leadership, certes féminin, mais surtout très efficace. Voilà. Parce que moi, je dis ce que je fais ce que je dis. Avec moi, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a jamais de mauvaise surprise. Je trace mon sillon droit. Et je suis persuadée que face à un Macron qui est un président zigzag, vous l'avez vu sur le nucléaire, c'est incroyable. Il y a 3 mois, il fermait 12 centrales. Aujourd'hui, la droite dit « faut réinvestir le nucléaire ». Hop, il redevient nucléaire. Il invente le RSA jeune. La droite dit « il faut revaloriser le travail ». Hop, il nous parle de valeur travail. Enfin, on a un président qui est un président caméléon. Et face à ce président caméléon qui dit à chacun ce qu'il a envie d'entendre, moi je crois qu'il faut quelqu'un qui trace son sillon droit, quelqu'un qui est une femme de droite et qui est une femme droite.
C'est-à-dire que vous enjambez déjà le deuxième tour de cette primaire LR pour vous projeter dans la présidentielle. Vous avez déjà gagné ?
Non, au contraire. Mais ce que je veux que les adhérents prennent en compte, c'est mon envie de gagner, ma capacité à gagner. Parce que les adhérents, ils veulent parfois se faire plaisir. Parce que un candidat a des idées qui sont plus proches des leurs. Mais au fond d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent l'alternance. Et moi, j'ai un projet prêt d'alternance très puissant. J'ai la capacité à rassembler. J'ai l'envie de gagner.
Vous parlez d'Éric Ciotti, il va falloir lui tendre la main pendant ces prochains jours et si vous arrivez à l'emporter samedi prochain. Vous avez pourtant claqué la porte de ce parti en pensant qu'il y avait un rétrécissement de la droite, qu'elle était devenue trop réactionnaire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas ?
Non,
la même droite ?
Vous réécrivez l'histoire. Je suis partie au lendemain de la démission de Laurent Wauquiez. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de prendre la tête des Républicains et je pensais que c'était mon tour. Et on m'a dit non, c'est pas ton tour, non, c'est le tour de Christian Jacob. Alors j'ai dit, ben, je m'en vais. Je m'en vais parce que vous ne voulez pas de moi. Et aujourd'hui, c'est différent. Les Républicains sont venus me rechercher en disant, tu peux être notre candidate parce que tu as gagné l'Île-de-France. Tu nous as fait gagner l'Île-de-France. Vous savez, les plus belles preuves d'amour qu'on peut donner à sa famille politique, c'est de la faire gagner. Et moi, je l'ai fait gagner contre 4 ministres d'Emmanuel Macron. On était 2, hein, Xavier Bertrand et moi, à avoir 4 ministres du gouvernement contre nous. C'est dire que nous sommes ceux que le gouvernement redoute le plus. Il redoute des candidats qui peuvent élargir la base. Nicolas Sarkozy l'avait très bien dit. Il avait dit, il faut être évidemment fier de ses valeurs, de droite assumée, mais il faut s'élargir et il faut rassembler pour gagner.
Il est 18h16, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, Valérie Pécresse est notre invitée exceptionnelle. Vous dites que la République recule dans notre pays, qu'il faut absolument réagir. Est-ce que vous avez un discours aussi pessimiste que celui d'Éric Zemmour ?
Non, moi j'ai un discours optimiste. Je considère qu'on n'est pas condamné ni au grand remplacement, ni au grand déclassement. Je pense qu'on peut avoir un sursaut. Mais il suffit que quelqu'un se lève et dise « ça suffit ». Et moi, je veux être celle qui se lève et qui dit, maintenant, ça suffit. Plan Orsec pour la justice, comparution immédiate en cas de flagrant délit, loi pour stopper l'immigration incontrôlée. Les clandestins repartent, on utilise les charters de Frontex comme l'Europe le propose et nous ne les utilisons pas. Il faut en finir avec le « en même temps ». Parce que l'autorité, ça se choisit pas à moitié. Emmanuel Macron, ça peut pas être un jour sur deux oui, un jour sur deux non. La culture de l'excuse, ça ne peut pas tenir lieu de politique de sécurité.
Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez beaucoup droitisé votre programme, notamment sur l'immigration, avec des propositions, une loi qui est déjà prête, une loi constitutionnelle qui est déjà prête. Est-ce que vous avez changé d'avis au cours des dernières années ?
Bah écoutez, je les mets au défi qu'ils aillent regarder ce que je disais il y a 4 ans. Quand Emmanuel Macron a prononcé cette phrase terrible, ce ne sont pas deux mâles blancs qui vont régler les problèmes de la banlieue. J'avais commis une tribune pour dire c'est une faute politique et morale. Nous devons détruire ces ghettos, nous devons nous mettre 10 ans à les détruire, mais nous devons avoir une stratégie de peuplement, un plafond anti-ghetto, pas plus de 30% de logement social par quartier. Et avec ça, on remet la République, la France, dans chaque quartier. J'avais parlé à l'époque de zone de non-France. Donc, toutes ces phrases-là, je les ai déjà prononcées. L'électrochoc d'autorité, c'est une interview que j'avais faite il y a 4 ans, en disant « mais c'est plus possible, regardez ce qui se passe ». Vous savez, je suis tous les jours en Seine-Saint-Denis. Et c'est vraiment un lieu qui concentre les défis de l'avenir et en même temps les problèmes.
Vous avez accusé Emmanuel Macron d'avoir cramé la caisse. Là, vous avez dit, c'était une dérouillée. Vous aimez le langage cash, désormais, pour casser votre image un peu lisse qu'on vous a parfois reproché.
Ah, écoutez, il y a un malentendu avec moi. C'est ma blondeur. C'est un malentendu. Voilà, je suis une femme forte. Je le prouve dans la façon dont je dirige ma région. Et c'est comme ça que j'ai toujours parlé. Alors c'est vrai que les Français me découvrent, un certain nombre de Français, parce que depuis 2 ans, il y a eu la crise Covid, il y a eu les régionales, ne m'ont vu qu'enfermée dans ma région, en bonne présidente de région. Mais j'ai un projet pour la France. Et je connais la France. Je l'aime passionnément. J'en connais beaucoup de régions intimement, parce que j'ai une famille très très nombreuse qui a des racines et des attaches un peu partout. Et c'est tous ces territoires de France, tous ces Français que je veux servir et que je veux protéger.
Avant le premier tour de la présidentielle, il y a ce second tour de la primaire LR. Quelles sont vos vraies différences avec Éric Ciotti au fond ? Est-ce qu'il y a des différences irréconciliables ?
Non, il n'y a aucune différence irréconciliable. Simplement, mon programme est un programme qui est crédible. Il est puissant et il est crédible. Je donne un exemple. Éric Ciotti veut créer un Guantanamo à la française pour enfermer sans jugement les personnes radicalisées. Moi, je partage avec lui l'idée que nous ne sommes pas assez armés contre l'islamisme, mais j'invente un autre dispositif qui s'appelle le crime d'intelligence avec l'ennemi, que je mets dans le code pénal. Et comme ça, on peut prendre des personnes qui consultent des sites djihadistes, on peut prendre des personnes dont la radicalisation est source d'inquiétude, et on peut les emmener devant le juge et les faire condamner avant qu'ils commettent un attentat. Donc vous voyez, une vraie prise de position commune contre la radicalisation, mais deux solutions. Une, sans juge, contre l'état de droit, et qui posera des problèmes, parce que si on enferme des gens sans procès, à un moment donné, ben, tout le monde va dire « mais quand est-ce que vous les libérez ?» Et une autre, crédible, on les juge, et on peut les enfermer, les mettre hors d'état de nuire.
Éric Ciotti a déjà dit qui serait son Premier ministre s'il était élu président de la République. Il a parlé de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous avez, vous, déjà fait le choix de votre équipe, Premier ministre, ministre? Est-ce que dans les quatre candidats qui vous accompagnaient, il y a forcément un poste pour chacun, d'ailleurs?
On n'élit pas un Premier ministre, on élit un président de la République ou une présidente. Et donc moi, je vais évidemment former une très belle équipe. Et les Français vont découvrir qu'il y a aujourd'hui dans nos territoires une foule de talents, des vrais professionnels de la politique, parce qu'on n'en peut plus de ces ministres qui ne gouvernent pas leur administration. On n'en peut plus de cette bureaucratie avec des ministres qui disent « je voudrais bien, mais je peux point parce que mon directeur, mes procédures ». Non, c'est plus possible. Je veux des professionnels. J'aurai une équipe de professionnels autour de moi et je choisirai le meilleur Premier ministre ou la meilleure Premier ministre le jour venu, quand je serai élu.
L'un des points névralgiques sur lequel vous avez beaucoup insisté, c'est l'éducation nationale. Vous dites qu'il faut un plan Marshall pour l'éducation nationale. On voit qu'il y a des agressions absolument tous les jours dans les établissements scolaires, des professeurs qui sont agressés, des tirs de mortier dans les couloirs de certains collèges. Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la grande mesure phare que vous allez proposer pour l'éducation nationale?
Alors d'abord, je vous remercie de poser cette question parce qu'on devait en parler sur France 2 et le sujet a été zappé.
Donc vous êtes mieux sur CNews et sur
Europe 1. Moi, je veux un sursaut national pour l'école, vous avez raison de le dire. Et la première chose que je veux, c'est ramener la discipline. Ramener la discipline. Il y a dans nos écoles des jeunes qui décrochent. Ces jeunes, on les laisse dans les classes. Ça n'est plus possible. Donc moi, je propose un examen d'entrée en sixième qui vérifie que les jeunes savent lire, écrire, compter. Pour ceux qui n'ont pas la maîtrise des fondamentaux, on fait des sixièmes de consolidation. Parce que c'est ces jeunes-là qui vont devenir les perturbateurs. Au mieux, ils seront absentéistes, on les retrouvera dans les réseaux de deal. Au pire, ils seront les perturbateurs. Et c'est eux qui vont commencer à sadiser les professeurs, à sadiser les bons élèves. Donc ces jeunes-là, les décrocheurs, on s'en occupe. Je créerai une réserve éducative nationale, comme il y a une réserve de la gendarmerie nationale. Je ferai venir les retraités, les étudiants, je les rémunérerai pour faire du soutien scolaire gratuit pour les familles. Je veux qu'on mette fin cet abandon de l'école. Et puis par ailleurs, il faudra donner des vraies primes aux enseignants qui iront dans les quartiers les plus difficiles. Il faudra une autonomie des établissements, une pédagogie différenciée. Et ça permettra quoi? Eh bien, ça permettra de mettre fin à ce bizutage institutionnel qui consiste à mettre les plus jeunes dans les quartiers les plus difficiles et qui conduit à quoi? Moins 30% de vocation de prof. Mais vous savez, si nous, les meilleurs d'une génération ne veulent plus enseigner, la France demain ne sera plus la France. Donc moi, je veux un sursaut national pour l'école et j'y mettrai les moyens.
Vous avez dans votre discours prononcé tout de suite les mots de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, deux personnages politiques qui vous ont aidé au cours de votre parcours. Est-ce que vous avez eu l'ancien président au téléphone? Est-ce qu'il vous a félicité de ce très bon score?
Oui, absolument, je l'ai eu, mais je garderai confidentiel ce qu'il m'a dit.
Bien entendu.
C'est important pour moi parce que je veux être digne de ses mentors. Jacques Chirac aimait la France profondément. Nicolas Sarkozy aussi aimait puissamment les Français. Et ils m'ont beaucoup appris et je veux être digne d'eux.
Qu'est-ce que vous dites à Marine Le Pen qui évoque le 4/4 breton en parlant de la primaire LR et qui dit que finalement la droite est extrêmement fracturée aujourd'hui entre Éric Ciotti et vous? Elle dit que c'est quasiment, il y a un fossé qui vous sépare.
Mais comme Marine Le Pen est bretonne, j'imagine qu'elle aime le 4/4 et elle va en bouffer beaucoup.
Donc c'est votre adversaire aussi, Marine Le Pen, dans
bien
cette
sûr,
élection?
Bien sûr, parce que aujourd'hui, je ne laisserai pas à Marine Le Pen le monopole, j'allais dire, de la défense des Français qui veulent de la dignité, qui veulent de la liberté, qui n'en peuvent plus de la bureaucratie, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui se sentent en insécurité chez eux. Parce que ces Français-là, je vais les défendre, mais moi avec des solutions. Vous savez, j'ai le Front National dans mon conseil régional. Le Front National...
Le Rassemblement National aujourd'hui.
Oui, j'ai du mal à les appeler rassemblements.
Vous préférez le Front National?
Oui, parce qu'ils ne rassemblent pas grand monde derrière eux. En tout cas, j'aimerais qu'ils ne rassemblent pas beaucoup de monde derrière eux. Vous savez, mon premier parti, ça s'appelait le Rassemblement pour la République, le RPR. Donc, j'ai du mal à leur donner ce nom de rassemblement. Mais bon, donc j'ai le Rassemblement National dans ma région. Et aujourd'hui, je les vois voter systématiquement contre mes brigades régionales de sécurité dans les lycées, ma charte de la laïcité qui permet de ne pas subventionner les associations qui font du prosélytisme islamiste. Donc, pourquoi ? Mais parce que le RN n'existe que s'il y a des problèmes. Et nous, nous sommes le parti des solutions. Nous réglons les problèmes. Donc forcément, ils votent contre. Donc ils font le choix de l'insécurité au quotidien, tous les jours.
Est-ce que vous irez jusqu'à tendre la main aux électeurs tentés par Éric Zemmour ? Éric Zemmour qui a félicité Éric Ciotti d'être arrivé en tête et qui lui dit, bon, visiblement les Français partagent le constat que nous faisons tous les deux. Et il dit, le RPR n'est pas mort, le RPR dont vous vous réclamez.
Vous savez, on ne peut pas se réclamer du parti gaulliste. Quand on dit que le maréchal Pétain a sauvé des juifs pendant des juifs français pendant la guerre, on ne peut pas se réclamer de Gaulle quand on dit qu'on n'est pas sûr que le capitaine Dreyfus était innocent. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut pas falsifier l'histoire à son profit. Donc moi, je le dis, nous avons un candidat qui est d'abord dans la provocation. Je ne dis pas que ses constats sont faux. Je dis qu'il est d'abord dans la provocation. Et moi, je suis d'abord dans les solutions. Et je sais que le 24 avril, quand les Français vont voter, ils vont voter pour une droite des solutions. D'ailleurs, on l'a vu même dans cette primaire. Dans cette primaire, j'allais dire, personne ne m'avait vu venir. Et pourtant, pourquoi les militants m'ont choisi, moi ? Ils m'ont choisi parce que mon programme était le plus fort, le plus puissant. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent la suppression des 35 heures. Ils veulent une vraie réforme de l'État. Ils veulent la débureaucratisation. Ils veulent une vraie réforme des retraites qui protégera le pouvoir d'achat des retraités. Ils veulent qu'on fasse enfin tout ce que Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de faire. Et puis, ils veulent de l'ordre. Et moi, je suis une femme d'ordre.
Et quel constat vous partagez avec Éric Zemmour quand il dit « la France est en danger », le terme du grand remplacement de la population par une population immigrée, ça, vous le partagez ou pas ?
J'ai déjà dit qu'il y avait des zones de non-France. Je vous dis, je suis la présidente de l'Île-de-France, une Île-de-France dans laquelle nous sommes, c'est sans doute la région la plus minée par le séparatisme islamiste, même si, en me déplaçant dans toutes les régions de France, j'ai vu des quartiers qui étaient tout aussi sensibles. La Guillotière à Lyon, j'ai vu les quartiers nord à Marseille, j'ai vu le Mirail à Toulouse. Je sais qu'aujourd'hui, c'est toute la France qui se sent aujourd'hui menacée par ces zones de non-droit et de non-France. Donc le constat, je le partage, et je le partage depuis des années. Simplement, la différence, c'est que moi, je propose vraiment des solutions pour y remédier. Zéro ghetto, on les détruit, on ramène l'ordre, des brigades, coups de poing pour vraiment mettre fin à ces trafics, des peines différenciées dans ces 62 zones de reconquête républicaine.
Donc on est plus puni si on habite dans une zone défavorisée que si on habite dans un quartier chic.
C'est pas une zone défavorisée, Madame Ferrari. C'est une zone de non-droit dans laquelle il y a des checkpoints, dans laquelle les habitants sont pris en otage.
Il y en a combien ? Une soixantaine pour vous ?
Aujourd'hui, il y en a 62. Il pourrait, à mon avis, y en avoir beaucoup plus. Les 62, c'est celles que le gouvernement a identifiées. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a identifié 62 zones dans lesquelles on est en reconquête républicaine. Et ben moi, dans ces zones, je considère qu'il faut frapper beaucoup plus fort et il faut que les dealers, les trafiquants, parce qu'on appelle ça zone de reconquête républicaine, en fait, c'est les carrefours de la fourgue et du deal. Je veux que dans ces zones-là, on ait à nouveau la peur du gendarme et la peur de la sanction judiciaire. Donc, il faut que ces sanctions, elles soient appliquées et qu'elles soient sévères.
Vous avez dit qu'une nouvelle aventure commençait à partir de maintenant. Si vous êtes désigné samedi par les électeurs, une question un peu personnelle, vous avez pensé à l'impact sur votre famille, sur vos enfants, sur vos proches? Vous savez que c'est une épreuve du feu, une élection présidentielle. Vous êtes prêt à prendre ce risque-là?
Ça a été le plus dur pour moi. Ça a été, et là je le dis en tant que femme, d'emmener ma famille avec moi, parce qu'ils ont déjà beaucoup souffert de ma carrière politique. Ils n'ont pas été épargnés. Et nous avons déjà eu pas mal de cicatrices, mais ils sont derrière moi et c'est une force.
Mais vous savez que ce sera difficile, que ce sera violent, évidemment, comme toutes les campagnes présidentielles. Vous y êtes prête?
Vous savez, j'ai mené trois campagnes dans la région Île-de-France. J'ai eu contre moi Manuel Valls, Claude Bartolone, Anne Hidalgo. J'ai eu contre moi Julien Bayou, Audrey Pulvar, Jordan Bardella. Donc je sais ce que c'est que des campagnes et je sais ce que c'est que recevoir des coups, mais je sais aussi en donner.
C'est vrai, vous serez prête à vous bagarrer, à faire une campagne un peu moins propre, un peu moins lisse que celle que vous avez faite auparavant? Je ne pense pas à celle-là, parce qu'on a vu un nouveau visage de vous dans ces débats.
Mais écoutez, je crois que vous avez un peu raté les épisodes. Hein. Quand Claude Bartolone m'a accusé de défendre la race blanche, ou quand j'ai eu contre moi Madame Autain, Madame Pulvar, Monsieur Bardella et Monsieur Bayou, ça n'était pas une campagne tranquille.
Un tout petit mot d'Éric Ciotti, qui est votre pas adversaire, on ne va pas dire ça, en tout cas votre concurrent. Il va arriver dans quelques instants sur le plateau. J'imagine que vous le saluerez sans déplaisir. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir? Déjà, commençons à parler alliance, commençons à parler programme commun.
Mais de toutes les façons, Éric est une composante très importante de la droite. Et moi, je veux travailler avec toutes les composantes de la droite. D'ores et déjà, j'ai réuni derrière moi la droite sociale avec Xavier Bertrand, la droite des services publics avec Philippe Juvin, la droite européenne avec Michel Barnier, qui a une vraie vision de notre stratégie internationale, de ce qu'il veut vraiment pour le pays dans le monde. Donc j'ai déjà réussi à ramener derrière moi un début d'équipe de France. Mmh. Et j'espère, si les militants me choisissent, que je pourrai conduire ce combat, parce que j'en ai l'énergie, j'en ai la volonté, et je sais qu'on peut gagner cette élection.
Est-ce que vous avez une référence, un président, une présidente, une femme politique, un homme politique qui guide vos pas ou pas?
J'ai cité Jeanne d'Arc, parce que je refuse qu'on laisse le monopole de Jeanne d'Arc à quiconque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il faut se lever et qu'il faut redresser la France, réparer la France, et aussi réconcilier les Français.
Vous avez une mission, parce que Jeanne d'Arc, c'est une mission divine. Est-ce que vous avez une mission aujourd'hui?
Alors, je vous rassure.
Vous laissez le côté religieux de côté.
C'est une Jeanne d'Arc républicaine. Mais oui, vous savez, si je me suis levée, c'est parce que je n'entendais personne proposer un programme aussi puissant que le mien, aussi réformateur, et avec une expérience aussi forte du terrain et des ennemis de la République que nous aurons à affronter.
Qui sont les ennemis de la République?
Eh bien, notamment les islamistes, mais aussi les voyous, les délinquants, tous ceux qui veulent détruire à la fois nos institutions, mais aussi notre civilisation.
Alors, je crois que sur ce constat, vous le partagez avec Éric Ciotti, qui est là dans le studio.
Mais nous sommes de la même famille politique.
Vous êtes de la même famille politique. On va l'accueillir. Bonsoir, Éric Ciotti. Venez vous asseoir. Passez juste devant nous. Vous êtes réunis sur ce plateau pour la première fois avec Valérie.
Bonsoir, Éric.
Est-ce que vous avez un mot à vous dire, peut-être tous les deux, après ce résultat, cette première partie de résultat?
On s'est déjà dit au téléphone.
On s'est parlé au téléphone. Et puis, je suis heureux qu'il y ait ce beau débat serein devant nos militants, dans l'unité, le rassemblement, et samedi, nous serons tous ensemble de toute façon.
Est-ce que vous vous engagez l'un et l'autre à soutenir qui Éric Ciotti, qui Valérie Pécresse, s'il est désigné samedi par les électeurs?
C'est la règle du jeu et nous avons tous signé pour cette règle du jeu.
Donc vous soutiendrez Éric Ciotti quoi qu'il arrive, s'il est désigné?
Je soutiendrai le candidat de ma famille politique quoi qu'il arrive.
Et si c'est Éric Ciotti?
Ce sera lui ou moi.
C'est bien de dire le nom.
Absolument.
Et vous, Éric Ciotti, vous soutiendrez Valérie Pécresse?
On s'est engagé dans l'unité, dans le rassemblement. Christian Jacob a fait un long travail patient de rassemblement, de réunification de la famille politique. On vient de loin. Et je suis heureux qu'on aboutisse dans cette démarche. Et naturellement, moi, j'ai toujours été animé par cet esprit d'unité et de rassemblement.
Voilà, c'est une belle image dans le studio de CNews et d'Europe 1, les deux candidats de la primaire LR qui sont venus en exclusivité. Merci Valérie Pécresse.
Merci Madame Ferrari.
Bonne chance pour la suite. On va rester avec Éric Ciotti qui vient d'arriver. Éric Ciotti, vous êtes arrivé en tête de ce scrutin. Est-ce que vous en avez été surpris? C'est ma première question. On a eu le sentiment que vous ne vous attendez absolument pas à être désigné, à être en tête de ce scrutin.
Ah, c'est les commentateurs qui ne s'y attendaient pas. Moi, j'ai toujours eu confiance dans les militants que je connais, puisque j'en suis, et aussi confiance dans la force des propositions, du projet que j'ai porté, qui est un projet très différent de celui de mes concurrents, un projet de rupture, un projet qui porte des valeurs très, très fortes, qui assume aussi une identité de droite. Voilà, je suis un homme de droite. J'ai intitulé d'ailleurs cette campagne « À droite » avec un point d'exclamation qui incarne aussi la fierté du retour de la droite. On s'est laissé enfermer pendant des années, voire des décennies, par les tabous du politiquement correct, où dès qu'on utilisait, on abordait un sujet, on était immédiatement renvoyé aux frontières de l'inadmissible, de l'extrême. Voilà, moi j'ai voulu casser ces codes, ces tabous, parler de tous les sujets, parler des peurs, des préoccupations, des inquiétudes des Français. Et je crois avoir quelques propositions qui détonnent, en tout cas, qui cassent avec les codes habituels.
Si je vous ai parlé de cette surprise que vous avez peut-être ressentie, c'est que la question d'après, c'est est-ce que vous êtes vraiment prêt pour être président de la République. Parce qu'être candidat à une primaire LR, c'est quelque chose. Être président de la République, endosser le costume, c'est une autre étape. Est-ce que dans votre tête, vous vous y êtes préparé ou pas? Vous avez fait une campagne rapide, vous l'avez rappelé, 3 mois seulement. Est-ce que vous êtes prêt?
Mes concurrents sont engagés depuis plusieurs années dans cette démarche. Quelques-uns depuis près de 10 ans. J'ai porté un projet, mais j'ai aussi une expérience. Je dirigeais une collectivité dont les budgets sont assez comparables à ceux de mes amis. Je suis parlementaire, j'ai porté beaucoup de textes. Je connais bien nos institutions, je connais surtout bien les Français. Voilà, je suis à la fois élu d'une terre de montagne, hein, d'un village avec des racines fortes, et puis député d'une grande ville, Nice, ma ville. Je connais les tourments, les difficultés, les espoirs, les craintes de mes concitoyens.
Mais là, on parle de la magistrature suprême.
Bien sûr,
mais est-ce que vous avez rêvé d'être président? Vous vous êtes vu à l'Élysée dans votre tête ou pas?
En tout cas, moi, je souhaite apporter le meilleur pour redresser mon pays. Et je crois que mes propositions seraient de nature à redresser cette France
vous me répondez
qui sombre.
Pas.
Oui, j'y suis prêt.
Bien vous sûr voyez
que,
à l'Élysée.
Bien sûr que j'y suis prêt. Parce que les idées que j'incarne, je crois, sont les seules qui, demain, peuvent incarner une renaissance française. Et puis, si je reviens à une analyse un peu plus politique, je crois que je suis le seul à faire revenir vers notre famille politique, celle des Républicains, qui est la seule, je crois, à pouvoir battre Emmanuel Macron, les électeurs qui sont partis vers Mme Le Pen, qui pourraient être tentés vers Éric Zemmour, ou même qui sont allés vers Emmanuel Macron. On a besoin aujourd'hui de ces électeurs qui sont allés plus à droite parce qu'on a déçu. Donc moi, je veux être le candidat aussi de cette droite qui retrouve sa voix, sa force, qui n'a plus peur, qui n'a pas de tabou, qui n'est pas une droite centriste. Je l'assume. Voilà, je ne suis pas une droite
molle.
Qui incarne
vous n'êtes
le
pas une
centre.
Droite molle.
Je suis une droite qui assume ce qu'elle est, sa force, l'exigence d'autorité, la défense de l'identité, la promotion de la liberté. Mes références, elles sont dans ma famille politique. Aujourd'hui, c'est la date anniversaire d'Austerlitz. J'y vois un magnifique symbole. On n'ose plus fêter Austerlitz, on n'aime plus fêter nos victoires. Eh bien, moi, je veux qu'on soit demain les tenants d'une droite conquérante. Et ce 2 décembre, il est important pour moi, il est important surtout pour la France.
Éric Zemmour vous a envoyé un message via les réseaux sociaux. Il vous dit, tiens, finalement, nous partageons des valeurs que les électeurs LR aiment. Et il dit surtout, le RPR n'est pas mort. Vous partagez cette analyse?
J'ai adhéré au RPR, c'était en 1981. J'ai toujours été fidèle à ma famille politique. Je n'en suis jamais parti. Voilà. J'ai entendu, y compris chez certains de mes concurrents, des critiques sur la droitisation, notamment lorsque Laurent Wauquiez était président.
Il sera toujours votre Premier ministre si vous êtes élu.
Bien sûr, vous savez. Moi, je ne varie pas. J'ai dit des choses sur Éric Zemmour. Je les maintiens.
Vous maintenez que s'il est face à Emmanuel Macron,
bien sûr,
vous voterez pour lui au second tour. Donc, vous ne vous voyez pas au second tour.
Moi, je me détourne de ces politiciens qui considèrent que leurs valeurs sont en fonction des circonstances. Moi, c'est l'inverse. J'ai des valeurs et elles ne changent pas. Je les défends.
Et à l'inverse, est-ce que vous demandez à Éric Zemmour de voter pour vous si vous êtes au second tour de la présidence?
Je l'espère, bien sûr.
Vous lui demandez?
Et je crois pouvoir être le seul à faire revenir vers nous ces électeurs. C'est toute la différence. Parce que les commentateurs m'ont présenté comme ayant moins de chances à ce stade. Mais ma notoriété était plus faible. Je n'avais pas gagné la primaire. Donc l'argument qu'on a, c'est de dire, bon, il y a 2-3 points d'écart. C'est de dire, moi, ma concurrente pourrait, ou mes concurrents avant, ceux qui étaient encore mieux placés, pourraient battre Emmanuel Macron. Je crois, au contraire, que je suis le seul à pouvoir faire un rassemblement des électeurs de droite. Moi, j'en croise. Et je l'ai
donc
fait.
Au-delà des Républicains.
Je l'ai fait dans
bien
ma
au-delà des
je
Républicains.
Je l'ai fait dans ma ville. Je l'ai fait dans mon canton. J'ai réduit le Rassemblement national à des niveaux très faibles. Parce que quand on assume une droite, des idées, des valeurs, qu'on n'en a pas honte. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, je peux faire revenir vers nous, vers notre famille, qui est la seule qui peut gagner, ceux qui partagent le constat d'Éric Zemmour. Et ce constat, Oui, sur bien des sujets, sur le déclin, sur le déclassement, sur la perte d'autorité, sur l'insécurité.
Sur le grand remplacement sur vous prenez le grand remplacement
sur le changement de population, je l'ai dit.
Pas grand remplacement. Hein.
Ben, moi, ça ne me gêne pas, cette formule, elle ne me gêne pas. Oui, il y a ces francs stratégiques, il a dit, c'est un organisme qui dépend de Matignon, disant que notre population, elle change. Donc, moi, vous savez, les Français, ils voient des réalités. Et quand on les interroge, il y a un immense écart entre ce qu'ils disent et ce que disent les commentateurs. Bien, moi, dans cette élection, je suis différent et je pense que je vais rassembler d'abord des militants LR qui viennent de chez Michel Barnier.
Parce que là, Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, ça ne vous a pas échappé, ont tous soutenu Valérie Pécresse. Vous êtes un homme seul ce soir ?
Je ne crois pas. Et vous le verrez dans le résultat qui... vous savez, on m'avait dit que j'étais un petit candidat... avec un peu de mépris, un peu de parisianisme aussi. Le message, il est différent aujourd'hui. Et si on m'avait peut-être présenté différemment, il y aurait encore eu plus de force.
Les débats vous ont servi. Les débats vous ont servi.
Bien sûr, parce qu'ils ont révélé la force d'un projet. Je ne vais pas parler de ma personnalité. Mais en tout cas, je crois que ce qui a été apprécié, ce sont les propositions. Et là, pour le coup, elles sont très différentes. De celle que porte Valérie Pécresse sur le droit du sang, on n'est pas d'accord. Sur la fin automatique du regroupement familial, on n'est pas d'accord. Sur la baisse de l'impôt sur le revenu, avec un taux maximal à 15%, je ne souhaite plus qu'un Français paye plus de 15% d'impôt sur le revenu. Donc tous ceux, aujourd'hui, il y aura une baisse massive de l'impôt sur le revenu. Je souhaite la fin des droits de succession, des droits de donation, tout ça, je suis le seul à le porter.
Un impôt sur la mort, comme vous dites.
J'ai des mesures aussi, parce que je ne suis pas là pour dire on va raser gratis. J'ai un programme qui est courageux et je reprends notamment toutes les mesures de François Fillon sur la retraite à 65 ans.
Pas sur le nombre de fonctionnaires supprimés.
Sur les nombres de fonctionnaires aussi. Je suis à 250 000.
Il était à 500. Hein.
Mais en allant aux 39 heures, au terme du mandat, on pourra aller plus. C'est un socle, c'est un minimum. Donc mon programme économique, c'est peut-être là qui a surpris, je l'entends. Parce qu'on m'attendait sur la sécurité. Vous savez, j'aborde la politique toujours avec humilité. J'aime pas le jeu revendicatif. Moi, j'aime la démonstration par la preuve, par les actes. C'est beaucoup plus crédible que par la parole. J'ai porté des lois à l'Assemblée nationale, la fin des allocations familiales pour les parents qui ne respectent pas leurs devoirs d'éducation, l'encadrement militaire des mineurs, une grande loi qui crée 20 000 places de prison. Tout ça, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy. L'obligation du drapeau français dans chaque classe. Dans ma collectivité, j'ai fait baisser les dépenses, la dette et les impôts.
Donc vous avez un bilan.
En tout cas, mes paroles, elles ne sont pas en désaccord avec mes actes. Moi, je n'ai pas changé la même famille politique, les mêmes valeurs, et je dis qu'il faudra, vu la gravité de la situation du pays, il faudra du courage. Et à un moment, pour battre l'impuissance macronienne, parce que moi, je refuse qu'on soit contraint à un second tour aussi terrifiant que la dernière fois, où on est Madame Le Pen face à Emmanuel Macron, et où tous
et
ceux
et Zemmour, Macron, c'est pas terrifiant.
Et finalement,
pour vous.
Où tous ceux qui...
Monsieur Ciotti.
Ça l'est moins.
Ça l'est moins.
Ou tous ceux qui appellent...
Éric Zemmour est moins terrifiant que Marine Le Pen.
Tous ceux qui ce soir appellent à voter contre moi, ils vont faire quoi? Ils vont appeler à voter Emmanuel Macron. Mais moi, je ne le ferai pas. Je le dis aujourd'hui, c'est une différence.
Vous ne l'aviez pas fait déjà en 2017.
Bien sûr. Et donc, ce que je n'ai pas fait hier,
vous
je
ne
le ferai
pas demain.
C'est pour ça, c'est la démonstration. C'est la différence. Il y a une différence. Et je dis aux militants, osez la droite. Parce qu'on en a besoin.
Il est 18h44, on est sur Europe 1 et sur CNews. Vous avez choisi notre antenne pour votre première interview et je vous en remercie. Est-ce que vous ne tendez pas aussi la main, finalement, à Xavier Bertrand, à Michel Barnier, à Philippe Juvin? Et vous avez été surpris de cette défection? Est-ce que vous vous êtes senti trahi par le fait qu'il, immédiatement, il soutienne Valérie Pécresse?
Non, je m'y attendais. Je m'y attendais.
Ils vous l'avaient dit tous?
Non, mais je connais...
Parce que vous parlez.
Nos positionnements, ils sont différents. Ils sont différents, ils sont différents sur le vote Macron, mais c'est pas neutre, c'est pas neutre. Voilà, moi je me situe plus dans ce système d'impuissance politique. Je fais le constat qu'on ne peut pas modifier simplement les politiques, je dresse le constat qu'au contraire, il faut les changer radicalement. Autrement, notre pays sera condamné. On n'a plus le droit à la prudence. Quand on décapite un enseignant devant un collège parce qu'il porte les valeurs de la France, on n'a pas le droit à la prudence. Quand on bat les records migratoires comme on l'a fait en 2019, on n'a plus droit à la prudence. Quand on a 3000 milliards d'euros de dettes, on n'a plus droit à la prudence.
Donc on a le droit à l'imprudence Il faut être imprudent, Éric Ciotti.
On a le devoir du courage. On a le devoir du courage, justement, parce que la prudence, c'est l'immobilisme, c'est le en même temps. C'est on fait comme on a toujours fait. Et au final, eh bien, il y a le déclassement, il y a 5 600 000 Français inscrits à Pôle emploi, il y a 20% des jeunes qui sont au chômage, il y a 10 millions de pauvres dans notre pays. On a ce paradoxe quand même. Le pays qui dépense le plus d'argent public est celui dont, malheureusement, aujourd'hui, l'efficacité des services publics est de moins en moins avérée. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans l'éducation nationale avec le niveau des élèves qui s'effondre, c'est vrai pour la sécurité, donc ça veut dire que quelque part, ça ne marche plus. Et puis, dans le privé, regardez les entreprises, des coûts salariaux horaires parmi les plus élevés d'Europe et les salariés qui travaillent dur ont parmi les salaires les plus faibles. Donc, si on regarde ça, ça veut dire qu'il faut tout changer, il faut baisser les dépenses publiques, il faut baisser les impôts. Moi, je commencerai d'ailleurs par baisser les impôts. Un référendum constitutionnel, je l'ai dit, le jour des élections législatives, pour retrouver notre souveraineté juridique, qui nous permet immédiatement ensuite de voter des lois sur le quota migratoire, la fin du regroupement familial, le permis à points migratoire, le droit du sang. Voilà, donc ça, c'est dans l'été, et je souhaite ensuite, dans le cadre purement législatif, toujours à l'été 2022, une grande loi de finances rectificative de baisse massive des impôts. L'impôt sur le revenu, plus aucun taux supérieur à 15%, et la fin des droits de donation, de succession en ligne directe, et une mesure ouverte aux grands-parents de donation tout de suite pour créer un vaste mouvement de transfert de capitaux vers la jeunesse.
Pour ceux qui en ont les moyens, évidemment.
Vers la jeunesse, oui, mais il y a beaucoup de grands-parents qui pourraient aider leurs enfants, et aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce que l'État prend tout.
On n'a plus le droit à la prudence, dites-vous. C'est pour ça que vous voulez envoyer l'armée dans certains quartiers. Aussi, ces quartiers de zones de non-droit, comme vous les appelez, vous assumez la possibilité que ces militaires qui sont formés pour tuer ouvrent le feu et fassent des victimes, oui ou non?
Oui, comme c'est le cas pour la force Sentinelle, et ça se passe très bien. La force Sentinelle, il y a 3000 militaires qui aujourd'hui...
Ils sécurisent des périmètres, ils ne sont pas chargés du maintien de l'ordre.
Mais ils feront la même chose derrière les policiers. Ils seront, comme la force Sentinelle aujourd'hui, dans la prévention du terrorisme, étant support des forces de sécurité, de la police judiciaire, bien sûr, des spécialistes de la lutte antiterroriste qui mènent les enquêtes, des forces mobiles qui assurent aussi la sécurité dans nos quartiers, il y aura une présence. À un moment, je le dis, le quoi qu'il en coûte sécuritaire, quand on va taper dans les réseaux aujourd'hui de trafiquants de drogue qui ont un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros par an dans notre pays, dont un guetteur, dans une journée, gagne quelquefois plus qu'un policier en fin de carrière. Bien sûr que ça va bouger. Donc ça veut dire qu'il faudra que la République, elle arrête de baisser la tête. Et c'est ce que je veux proposer avec beaucoup de force.
Est-ce que vous pensez que la République, incarnée par Valérie Pécresse, qui était il y a quelques instants sur le plateau d'Europe 1 et CNews, elle baisserait la tête? Est-ce qu'elle a un projet qui est moins fort que le vôtre, plus faible par rapport au manque d'autorité dans notre pays?
Je crois qu'il serait plus faible. Oui, c'est sans doute une différence. Je le pense. C'est, en tout cas, moi, je n'ai pas jugé. Et je ne veux pas critiquer, rentrer dans ce débat. Je regrette qu'on n'ait pas une campagne plus longue pour qu'on ait une vraie confrontation. Mais en tout cas, je sais que moi, mon projet, mon programme, ma volonté, ma détermination, elles sont totales. Parce que les Français, aujourd'hui, n'en peuvent plus. Et il est totalement insupportable que des Français doivent passer pour rentrer chez eux des barrages tenus par des dealers, comme c'est le cas dans certaines cités. On l'a vu sur des chaînes de télévision, des checkpoints installés à Marseille ou ailleurs, tenus par des dealers. Ça, ce n'est plus supportable. Donc oui, je dis, il faut un quoi qu'il en coûte sécuritaire. Et s'il faut qu'aux côtés de nos enquêteurs, qui doivent traquer les réseaux au cœur, qui doivent aussi combattre la consommation de drogue, à travers notamment d'une amende forfaitaire délictuelle de 1 000 euros, il y ait des gardes qui protègent les forces sentinelles, par exemple, qui se déploient devant des bâtiments publics qu'on incendie aujourd'hui, lorsqu'il peut y avoir des tensions, devant des commerces, ben je le ferai et j'oserai cette mesure.
Sur la question des migrants, on est en pleine crise des migrants à Calais. La France vient de refuser les patrouilles communes entre la France et l'Angleterre pour surveiller les côtes. Vous auriez fait pareil ? C'est une question de souveraineté nationale ?
Moi, je crois qu'il faut arrêter cette guéguerre un peu stérile avec la Grande-Bretagne et se renvoyer des personnes qui sont des êtres humains. D'abord, je dis, le problème de la migration, et c'était, je crois, sur votre antenne, il y a eu une extraordinaire interview du cardinal Sarah, qui a dit « Arrêtons de laisser penser aux migrants que l'Europe est un Eldorado, il ne faut plus qu'ils viennent en Europe, et il faut développer leur pays ». Donc la solution de ce qui se passe à Calais, c'est pas à Calais que ça va se jouer.
C'est pas à Londres non plus.
C'est à Lampedusa. Ni à Douvres, ni à Calais, c'est à Lampedusa, sur la route des Balkans, ou à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Donc on a un devoir de protéger nos frontières, on a le devoir pour combattre les passeurs, de renvoyer les embarcations des passeurs qui exploitent des êtres humains en totale détresse, des femmes, des enfants quelquefois, il faut les renvoyer vers les côtes de départ, notamment vers les côtes de l'Afrique du Nord, libyenne, tunisienne ou marocaine. Autrement, on ne réglera rien. Dès qu'un migrant arrive en Europe, je dirais que c'est déjà trop tard et on rentre dans un chemin impossible.
Il faut construire des murs. Et il y a 12 pays en Europe qui construisent des murs. Est-ce qu'il faut que la France construise un mur ?
En tout cas, il faut protéger nos frontières externes. Et il faut rétablir dans l'Union des frontières internes plus contrôlées, mieux contrôlées. C'est déjà le cas. Ça a été le cas depuis les attentats de novembre 2015. Ce fut le cas pour la crise sanitaire. Donc on peut et on doit rétablir ces frontières internes. Arrêtons avec une forme de naïveté qui s'associe à la libre circulation, parce que les migrants qui arrivent, si on ne protège pas, si on ne soutient pas la Pologne ou la Hongrie, qu'on a beaucoup fustigé, mais demain, si la frontière polonaise elle n'est pas tenue, ces migrants, 4 jours plus tard, ils seront à Calais. Et si on les renvoie, si on dit on laisse la frontière côté britannique, ils vont rester, ils vont venir massivement chez nous. Donc on a un devoir de protection externe, mais aussi de dialogue et de coopération avec les Britanniques. Voilà. Les Britanniques ont fait le choix de partir de l'Europe. C'est une décision souveraine. Je la respecte. Il y a sans doute aussi beaucoup de responsabilités de la part d'une Europe telle qu'elle est devenue. Quand je vois la commissaire européenne, je viens d'écrire aujourd'hui à Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, pour lui demander de révoquer Mme Elena Dalli, qui a rédigé une circulaire ahurissante qui interdit de citer des prénoms chrétiens, de citer des fêtes chrétiennes, pour ne pas discriminer des populations. Mais où sommes-nous ? Ce n'est pas cette Europe dont nous sommes les héritiers. Nous sommes les héritiers d'une civilisation européenne, chrétienne aussi, comme le disait le président Giscard d'Estaing. Et là, on nous dit on ne peut plus appeler une petite fille Marie. Ma fille, elle s'appelle Marie, j'en suis fier. Ou Jean, elle s'appelle même Jeanne-Marie. Voilà,
attention sur les prénoms, bon. Vous savez que c'est le registre d'Éric Zemmour.
Non, mais justement, mais on a un commissaire européen qui vient nous dire il faut plus, on n'a plus le droit de prononcer des prénoms chrétiens. Moi, je suis pour la liberté des prénoms.
D'accord.
Voilà. Mais qu'une commissaire européenne vienne nous dire ça, c'est totalement insupportable.
On voit à travers vos propos ce soir et la campagne que vous avez menée, vous incarnez une droite très très à droite. Vous n'avez pas peur que si les militants vous choisissent samedi prochain, eh bien certains élus LR quittent le parti, aillent rejoindre Édouard Philippe dans cette vaste maison commune qu'il est en train de créer avec La République En Marche ?
C'est pas eux qui m'importent. Ceux qui sont dans cette attitude, et j'en connais dans ma ville et dans ma région, ils sont déjà partis depuis longtemps. Et ils sont déjà dans la majorité. Voilà, ils avancent masqués, déguisés, voilà, ils attendent des postes et des places parce qu'ils pensent que la Macronie va rester au pouvoir. Si demain la perspective est différente, ils reviendront avec la même vitesse qu'ils en sont partis.
Ils reviendront
à la soupe. Colonne vertébrale,
ils reviendront à la soupe.
Leur colonne vertébrale, elle est souple. Elle est souple ou soupe, comme vous direz. Voilà. Mm-hmm. Ça, c'est la petite tambouille dont parlait le général de Gaulle. C'est pas la politique comme je l'aime. C'est pas des hommes de caractère, ceux-là. Voilà.
Une dernière question, Valérie Pécresse, ça ne vous a pas échappé, est une femme. Est-ce que c'est un atout majeur dans cette campagne?
Oui, ça peut. Voilà, moi, je suis pour cette promotion, pour cette égalité entre les hommes et les femmes.
Vous engagez à ce que votre Premier ministre. C'est Laurent Wauquiez, c'est raté pour la parité.
Mais il y aura une parité des ministres. Et Valérie Pécresse, naturellement, en sera, si je suis demain le candidat et qui nous amène au succès dans cette élection présidentielle.
Donc vous ferez toute la place pour les femmes dans votre équipe va se rassembler autour de vous au cours des prochains
jours. Ma directrice de campagne est une femme, c'est une sénatrice, Alexandra Borchio-Fontaine, une jeune sénatrice de 35 ans, qui a du talent.
Vive les femmes.
Et qui a mené, toujours, bien sûr, vive les femmes.
Merci beaucoup Éric Ciotti d'être revenu ce soir sur CNews et sur Europe 1 pour cette première interview après ce résultat de la primaire LR au premier tour. Vous êtes arrivé en tête des suffrages avec 25,9% des suffrages. Vous espérez combien pour le second tour samedi prochain?
Gagné.
Merci beaucoup d'être
venu.
Une
nouvelle élection, complètement.
Une nouvelle campagne qui commence.
Bien sûr, même si elle est malheureusement un peu courte.
Elle va être courte. Merci beaucoup en tout cas.
On vote dès demain matin à 8h.
Voilà, c'est bien de donner rendez-vous aux électeurs. Merci à vous d'être venu ce soir sur le plateau de Punchline. Merci aussi à Valérie Pécresse, puisque les deux candidats étaient sur nos antennes. Merci à vous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour Punchline. Et tout de suite, c'est Christine Kelly sur CNews avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on se retrouve en direct avec Bruno Jeudy, rédacteur en chef à Paris Match. Bonsoir Bruno.
Bonsoir Laurence.
Nous sommes avec Louis Haussalter, journaliste à Marianne.
Bonsoir
Louis. Et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
vous étiez suspendu comme ça.
J'avais oublié. Bon,
mon cher Louis, nous avons eu la chance d'avoir les deux candidats des Républicains finalistes, Valérie Pécresse et Éric Ciotti, sur le plateau de Punchline il y a quelques instants. Ils ont évidemment insisté sur les ponts, les passerelles qui pourront les rassembler après le second tour. Chacun s'est d'ailleurs engagé à soutenir l'autre ici même sur ce plateau, même, les yeux dans les yeux, donc ils ne pourront pas revenir sur cet engagement. Mais il y a quand même quelques différences et on va voir que chacun a souligné les différences qui caractérisent le programme de l'autre. Écoutez d'abord Valérie Pécresse sur les différences avec Éric Ciotti.
Il n'y a aucune différence irréconciliable, simplement mon programme est un programme qui est crédible. Il est puissant et il est crédible. Je donne un exemple. Éric Ciotti veut créer un Guantanamo à la française pour enfermer sans jugement les personnes radicalisées. Moi, je partage avec lui l'idée que nous ne sommes pas assez armés contre l'islamisme, mais j'invente un autre dispositif qui s'appelle le crime d'intelligence avec l'ennemi, que je mets dans le code pénal. Et comme ça, on peut les emmener devant le juge et les faire condamner avant qu'ils commettent un attentat. Donc vous voyez, une vraie prise de position commune contre la radicalisation, mais deux solutions. Une, sans juge, contre l'état de droit, et une autre, crédible. On les juge, et on peut les enfermer, les mettre hors d'état de nuire.
Voilà, on entendra dans un instant Éric Ciotti sur les différences avec Valérie Pécresse. Louis de Ragnel, ils ont des vraies différences. C'est vraiment compliqué de rassembler les deux ou pas tant
non,
que ça.
Là où Valérie Pécresse a raison, c'est que ce ne sont absolument pas deux droites irréconciliables. D'ailleurs, ils ont fait un bout de chemin politique ensemble. Ils étaient tous les deux dans l'équipe de François Fillon à un moment donné, lors de la dernière campagne présidentielle. Et puis on voit bien sur cet exemple précis, en fait, la différence, elle se joue sur les mots. Éric Zemmour, il a des mots qui parlent à la droite conservatrice, donc avec un symbole, un Guantanamo à la française. Et Valérie Pécresse, en fait, elle explique différemment, mais avec ces mots, exactement la même conséquence, la même finalité. C'est-à-dire, en fait, elle veut créer des centres de rétention administratifs pour mettre en détention des gens de manière préventive. Donc, globalement, en fait, il y a des mots différents, la finalité est exactement la même.
Bruno Jeudy, pas tant de différence que ça entre les deux candidats?
Oui, il n'y a pas tant de différence sur le régalien. Il faut savoir que d'abord, ce sont deux personnalités qui ont travaillé ensemble. Alors, c'était en 2012, c'était la campagne de François Fillon pour conquérir l'UMP. À l'époque, Éric Ciotti était le directeur de campagne, Valérie Pécresse, la porte-parole. Et ils se sont rappelés d'ailleurs tout à l'heure ces souvenirs. Je dis ça pourquoi? Parce que au fond, Éric Ciotti, par exemple, est assez proche de Patrick Stefanini, qui est le directeur de campagne de Valérie Pécresse. Et le projet de loi constitutionnelle qu'a préparé Patrick Stefanini pour Valérie Pécresse, grosso modo, quand vous discutez avec Éric Ciotti, il le valide dans les grandes lignes. Donc, sur les questions régaliennes, Ça peut surprendre, mais ils sont pas si loin que ça. Alors après, ils n'emploient pas les mêmes mots. Il y a la martialité d'Éric Ciotti. Il y a son style à lui, plus niçois sur ces questions. Et puis il y a Valérie Pécresse qui même si elle s'est beaucoup durcie sur ces questions, elle a beaucoup travaillé ces questions. Elle n'est pas spécialiste comme Éric Ciotti. Au fond, ils sont pas très éloignés. Je suis d'accord avec le côté. Il y a pas C'est pas irréconciliable sur cette question, pas du tout même.
Louis Westhalter, ce ne sont pas deux pôles très opposés de la droite que l'on a là, non. Quand même.
Non. Parce que Éric Ciotti explique, et vous a expliqué, Laurence, je ne suis pas un centriste. Son argument sous-entendu, bah, Pécresse l'est un peu plus. Mais moi, j'ai relu cet après-midi le programme de Valérie Pécresse. Comme disait Bruno, c'est pas exactement un programme de centriste. Mais Valérie Pécresse, elle a cette image, je sais pas si c'est parce que c'est une femme, je sais pas exactement pour quelle raison, elle a cette image de centre-droit. C'est vrai que dans ses déclarations...
Elle est chiracienne aussi un peu.
Elle est chiracienne dans ses déclarations.
C'est le côté chiracien qui fait qu'elle serait
moins... Elle passe pas pour une extrémiste, elle a jamais fait des déclarations zémouristes et tout ça. Mais son équipe avait bien identifié qu'il fallait qu'elle durcisse ses positions pour coller non seulement aux adhérents LR qui allaient voter, mais aussi à la droite en général, aux sympathisants de droite en général, qui eux aussi se sont durcis. Parce que la France s'est droitisée, parce qu'on a assisté à tout ce qu'on a assisté depuis 5 ans.
Elle n'a pas sous-estimé la droitisation.
Elle a durci ses positions, et sous l'influence de son directeur de campagne, Patrick Stefanini, elle a truffé son programme de mesures régaliennes qu'Éric Ciotti, même s'il voulait aller un peu plus loin sur tel ou tel curseur, ne va absolument pas démentir. Donc l'argument de Ciotti qui consiste à sous-entendre que Pécresse est centriste ne tient pas au vu de son programme, en tout cas.
Louis de Ragnel.
Il y a quand même une différence d'approche, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas du même endroit. Valérie Pécresse, elle est venue au sujet régalien parce que, précisément, la droite se droitisait, il y avait une attente beaucoup plus forte de la part des électeurs et des Français de manière générale, là où Éric Ciotti est extrêmement constant, ça fait 15 ans maintenant qu'il défend exactement les mêmes idées, il n'a jamais bougé, et ce sont les sujets qui l'intéressent depuis toujours. Donc ça a été d'ailleurs le monsieur sécurité, on l'appelait comme ça, des Républicains, il a participé à construire tous les programmes en 2012, en 2017. Et donc, si vous voulez, pour lui, c'est un peu le pur et dur, quoi. Et donc, il observe juste une trajectoire, une mue de Valérie Pécresse qui est venue sur ces sujets. Voilà, par nécessité, je pense et on le voit, elle est convaincue, elle est sincère quand elle en parle. Et puis, quand on voit ce qu'elle écrit, alors peut-être sous la plume de Patrick Stefanini, mais c'est quand même elle qui l'écrit, elle assume. Je me souviens même, dans Valeurs Actuelles, elle déclamait tout son programme sur l'immigration. Effectivement, c'était un programme, honnêtement, extrêmement carré, très ferme, c'était pas de l'eau tiède.
Bruno Jeudy, elle n'a pas tant donc évolué dans ses positions que ça, Valérie Pécresse. Elle revendique le fait d'avoir toujours parlé des questions de sécurité, toujours parlé des questions d'immigration. C'est ce qu'elle me disait il y a quelques instants.
Alors, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que beaucoup d'observateurs disent qu'ils se sont durcis, tout ce qu'ils en sont, sauf Éric Ciotti, évidemment. Je crois que ça tient au fait que depuis un certain temps, on n'écoute plus tellement les Républicains. Et ceux qui n'ont pas entendu Valérie Pécresse pendant la campagne des régionales, ils ont cru qu'elle s'était durcie. Mais ils n'ont pas écouté ce qu'elle a raconté pendant la campagne des régionales, où elle était la cible de toute la gauche parce que elle était trop dure, parce qu'elle avait des propositions jugées... Et Valérie Pécresse, c'est Stefanini qui dit souvent, on la prend pour quelqu'un centriste, alors qu'elle est beaucoup plus à droite, et lui-même dit qu'il a retoqué des propositions qu'elle faisait dans la préparation. Donc non, simplement, je pense que c'est comme beaucoup des candidats LR, et c'est pour ça que l'opération de ce congrès est réussie, puisque pendant le mois de novembre, ils ont pu prendre la lumière. Alors du coup, on les a plus entendus, et on a dit, bon sang, ils sont beaux, mais qu'est-ce qu'ils se sont durcis?
Ils sont très à droite, mais ces gens de droite, finalement.
Valérie Pécresse n'a pas sous-estimé la droitisation du pays. C'est sans doute une
elle
des raisons
senti.
De son succès, peut-être par rapport à Michel Barnier ou Xavier Bertrand,
qui
sont ce soir les grands battus quand même de ce congrès.
Plus Xavier Bertrand que Michel Barnier, à votre
avis ? Bien sûr, plus Xavier Bertrand, parce que d'abord, ça fait des années qu'il s'est préparé, il était en tête dans les sondages d'intention de vote, et il apparaissait comme le favori, au moins, pour cette campagne présidentielle. Côté droit, Michel Barnier était le favori des militants, parce que soutenu par Laurent Wauquiez. Les deux favoris ont trébuché.
Dure soirée pour Xavier Bertrand, Louis de Ragnel.
C'est pas simple, d'autant plus que sa campagne a commencé en réalité il y a très longtemps. Elle a commencé même avant les élections régionales. Il faut se souvenir quand même que Emmanuel Macron met 5 ou 6 ministres en face de lui dans la région pour essayer de le faire battre. Ensuite, donc, il déclare sa candidature, il y va tout seul. Finalement, il revient dans le parti, il se soumet au vote du Congrès. Donc c'est quand même, honnêtement, un parcours assez difficile. Souvent, vous savez, nous, on commente assez facilement les personnages politiques, les personnalités politiques. Mais il faut quand même voir que que derrière tout ça, il y a énormément de renoncements. C'est une vie qui est quand même... Alors, ils l'ont choisie, hein, vous pourrez me dire. Oui, c'est une vie qui est difficile. Et donc, la défaite, je pense, est dure.
Ouais. On fait une petite pause. Je passe la parole dans un instant à Louis Hausselter. On écoutera Éric Ciotti, lui, énumérer ses différences avec Valérie Pécresse.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Bruno Jeudy de Paris Match, Louis Hausselter de Marianne, Louis Dragnel d'Europe 1. On va écouter Éric Ciotti. Il était notre invité il y a quelques instants avec Valérie Pécresse. Et lui aussi, il marque les petites différences qu'il a avec son adversaire.
Je crois que ce qui a été apprécié, ce sont les propositions. Et là, pour le coup, elles sont très différentes de celles que porte Valérie Pécresse. Sur le droit du sang, on n'est pas d'accord. Sur la fin automatique du regroupement familial, on n'est pas d'accord. Sur la baisse de l'impôt sur le revenu, avec un taux maximal à 15%, je ne souhaite plus qu'un Français paye plus de 15% d'impôt sur le revenu.
Louis Dragnel, il a surpris en allant sur l'économie, Éric Ciotti. Personne ne l'attendait là-dessus dans les débats.
Absolument.
Et puis finalement, il avait quelque chose d'assez cohérent. Hein.
Figurez-vous qu'en fait, il y avait un écueil dans lequel il n'est pas tombé et il aurait pu tomber. C'est montrer le monsieur sécurité, donc parler que de sécurité d'immigration. Et il a réussi à montrer qu'il était compétent aussi sur d'autres sujets. Et effectivement, il y a des vraies différences. Dans les différences qu'il pointe, pour le coup, là-dessus sont des différences vraiment fondamentales. Le droit du sang, droit du sol, c'est quand même une vraie rupture. Sur la question du regroupement familial, pareil. Et sur l'imposition, moi, il y a cette idée qu'il a ressorti de l'impôt sur la mort. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué.
C'est choc, l'impôt, oui.
Voilà, qui vient de Dick Cheney, c'était aux États-Unis. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui a dû marquer les esprits aussi.
Oui, Hausselter, de Marianne.
Éric Ciotti et Valérie Pécresse, je trouve que cette finale, en fait, elle marque quelque part la perpétuation de la victoire idéologique du fillonisme. Pourquoi je vous dis ça? Pas seulement parce que les deux étaient d'ailleurs proches de Fillon. Et Bruno l'a rappelé, au moment où Fillon tentait de conquérir l'UMP en 2012, ils avaient joué un rôle important dans sa campagne. Mais Ciotti, on l'a assez, en effet assez peu vu, mais il a recyclé tout un programme très libéral. C'est lui qui voulait supprimer le plus de fonctionnaires, hein, 250 000 dans son programme. Il a recyclé des mesures encore plus libérales, quelque part.
Et il veut attendre les 500 000, hein. Il veut attendre les 500 000 avec les départs en retard.
Voilà, donc il fait du post-fillonisme, quelque part. Et Valérie Pécresse, quand vous lisez son programme, quand vous voyez à la fois son parcours, elle qui a été ministre de François Fillon sous le quinquennat Sarkozy, et quand vous lisez son programme, vous voyez aussi que les marqueurs fillonistes sont bien là. Donc, quelque part, dans cette droite, certes, il y a eu plus de 4 millions de votants à la primaire d'il y a 5 ans. Là, on est sur moins de 150 000 votants. Donc, il y a ce rétrécissement de la façon de désigner le candidat. Mais sur les marqueurs idéologiques, finalement, Fillon avait raison en 2016. Et c'est pour ça qu'il avait conquis cette droite. Là, aussi bien chez Ciotti que chez Pécresse, on voit, je trouve, la perpétuation de ça.
Et là, ils ont décidé de ne pas se faire voler l'élection cette fois-ci. Il n'y a pas eu d'attaque ad nominem, les débats se sont bien déroulés. Ils ont tout pour pouvoir se réunir après la désignation de samedi, Bruno Jeudy.
Moi, j'avais aucun doute là-dessus, quand bien même ça aurait été les autres participants, Barnier ou Xavier Bertrand, ça aurait été pareil. C'est encore plus facile parce que là, il y a Louis le rappelait, il y a la filiation filloniste qui les rapproche sur bien des points, même sur les questions de fiscalité. Moi, je pense qu'il y a quand même des différences notables entre Ciotti qui a un programme.
Ciotti, elle est très loin.
Très loin, et Valérie Pécresse, elle essaie de garder un programme qui soit applicable, parce qu'après, vous promettez des choses...
Pas d'impôt au-dessus de 15%.
Ça me paraît assez... Enfin bref, ça c'est affaire de spécialistes. Donc non, il y a de ce point de vue-là, leur filiation filloniste, puis leur bonne entente fait que ça peut marcher. On n'est pas dans le contexte de 2016 où ils ne s'entendaient plus du tout. Et la primaire avait achevé, et en plus François Fillon qui gagne, qui n'ouvre pas les bras après la primaire, ça avait été un peu le début des ennuis, même si c'est essentiellement
les affaires
qui ruineront les chances du candidat Fillon. Non, là, on n'a pas du tout ça, parce qu'en plus, ils savent bien que samedi, une fois que le vainqueur est désigné, le plus dur commence, parce qu'aujourd'hui, aucun de ces candidats n'est en mesure de se qualifier pour le second tour, et même de très très loin. Donc, le plus dur commence quand même samedi à 14h30, une fois que Christian Jacob aura proclamé le résultat, parce que non seulement il faut rattraper Éric Zemmour, il faut rattraper Marine Le Pen, il faut essayer d'aller au second tour, et après, il faut s'attaquer à Emmanuel Macron. Alors, là, si on regarde simplement, moi je trouve que les ministres ont été surpris de voir que Valérie Pécresse est en situation peut-être de l'emporter, et on voit bien que la présence d'une femme peut quand même rebattre.
Alors,
un peu.
Alors, l'atout femme.
Rebattre un
Parlons
peu.
Parlons de l'atout femme.
Rebattre
Est-ce
un
que
peu les cartes.
Il oui, va jouer, ça va jouer.
Oui, c'est un atout. C'est un atout, et c'est même symbolique d'une droite fameux parti des Godillot.
Machiste.
Qui, si, mais non, mais Laurent, c'est pas...
Ça a été longtemps machiste.
Dans, bien sûr, mais dans l'histoire de la droite, l'histoire du RPR, l'histoire des gaullistes, où il n'y avait que des hommes à ces tribunes, franchement, si jamais ce parti désigne une femme, ce sera quand même...
Une petite révolution.
Ce sera quand même... Alors, une belle révolution, je dirais.
Une belle, pas une petite, vous avez raison.
Mais oui, ce sera symbolique. Après, j'ose espérer que les électeurs de droite votent, parce que s'ils ont qualifié Éric Ciotti et Valérie Pécresse, c'est pour le programme, les idées, ce qu'elle incarne. Si Valérie Pécresse était nulle, j'ose espérer que les électeurs de droite ne l'auraient pas placée.
Le sujet, c'est, est-ce que là, il peut y avoir un effet femme qui va jouer.
Et surtout que face à Emmanuel Macron, ça peut être déstabilisant. Emmanuel Macron, il est plus facilement désarçonné face à une femme que face à...
Il n'a pas été désarçonné face à Marine Le Pen. Hein.
Ouais, mais là, c'est assez différent. Bah, parce
faut
que
dire que...
Il a
rendu des choses assez faciles.
Ce que je trouve, simplement pour aller dans poursuivre un peu ce que disait Bruno Jeudy à l'instant, ce qui est intéressant quand même, c'est que là, pour le coup, à partir de ce week-end, il va y avoir une clarification. Il y aura un seul candidat de la droite. Globalement, c'est quasiment une prouesse. On sort de la... C'est plus la droite la plus bête du monde. Attendez, on a commenté la droite la plus bête du monde pendant des années et des années. Donc là, globalement, ils ont tous scellé une sorte d'accord pour dire, voilà, on va pas s'entretuer. Et en plus, il n'y a pas d'affaire judiciaire. Attendez, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans les dernières élections présidentielles, en tout cas pour le moment. Et du coup, moi, je pense que maintenant que les choses sont plus clarifiées, pour les Français, ça va être plus compréhensible. Enfin, il y aura quelqu'un qui sera désigné. Et je pense que mécaniquement, le candidat va monter un peu dans les
sondages. Il y aura une dynamique.
Même si ça ne veut pas dire que c'est gagné d'avance.
Louis Salter, il y aura une dynamique.
En fait, je ne sais pas. C'est une vraie question. Qu'il y ait une dynamique dès le début, sans doute. En tout cas, on en parle. Ça donne une exposition médiatique automatique au candidat. Mais quand même, on a un peu l'impression d'être là dans une soirée électorale, alors que un peu plus de 100 000 personnes ont voté seulement.
113.
Et le nombre de voix pour Valérie Pécresse, qui est la favorite du second tour, c'est 28 000. C'est-à-dire qu'il y a 28 000 personnes qui ont voulu désigner candidate de la droite Valérie Pécresse. Et Ciotti, c'est quasiment le même score en nombre de voix, à quelques centaines près. Donc, il ne faudrait pas que la droite s'illusionne sur le fait qu'une formidable machine, une formidable dynamique...
Ah, ils sont dans la présidentielle déjà.
...s'est mise en marche parce que la légitimité qui est apportée, ce n'est pas des millions d'électeurs qui avaient voté.
Honnêtement, Louis, je crois que personne ne s'illusionne.
Vous ne jeudi.
Pour le coup,
ça peut tomber.
Attendez, pas tous en même temps, Bruno.
Ils sont lucides, Louis. Ils savent bien que le plus dur va commencer et que, franchement, c'est les candidats-là qui étaient là ce soir sur le plateau de Laurence, ils savent pertinemment où ils en sont dans les sondages quand ils sont sondés dans les intentions de vote. Non seulement ils ne sont pas au second tour, mais ils sont même loin pour l'instant de la qualification. Il y a Zemmour devant qui va faire un meeting avec Dumonde dimanche, et même s'il connaît une période de difficulté, pour l'instant il fait beaucoup plus de monde, il y a plus de jeunes, il y a un enthousiasme. Non seulement il faut créer le pari de l'enthousiasme, il faut amener des jeunes, il faut mobiliser une droite qui globalement se dit « Bon, on va y aller, mais ça va être dur. » Donc, il y a du boulot.
Hein. On va écouter Éric Ciotti, justement, sur Éric Zemmour, parce que Éric Zemmour s'est empressé de le féliciter sur Twitter en lui disant « Le RPR n'est pas mort ». On va écouter ce que répond Éric Ciotti à Éric Zemmour.
Moi, je ne varie pas. J'ai dit des choses sur Éric Zemmour. Je les maintiens.
Vous maintenez que s'il est face à Emmanuel Macron,
bien sûr,
vous voterez pour lui au second tour. Donc, vous ne vous voyez pas au second tour.
Moi, je me détourne de ces politiciens qui considèrent que leur... valeurs sont en fonction des circonstances. Moi, c'est l'inverse. J'ai des valeurs et elles ne changent pas.
Alors, Louis Dragnel, est-ce qu'il y a une passerelle évidente entre les deux, Éric ?
Ah bah, enfin, sur les thématiques, évidemment. Enfin, il y a une vraie, une convergence programmatique qui transparaît, même jusqu'à l'emploi de certains mots. Je pense au grand remplacement. Je pense à plein de, même des expressions. Hein. Tu touches à un policier, tu dors en prison. C'est la prison ou l'avion. Tout ça, ce sont des mots qui ont d'ailleurs marqué les esprits, qui sont à la fois employés par Éric Zemmour, Éric Ciotti, même parfois par Marine Le Pen. Donc, sur les idées, oui, parce que Éric Ciotti veut parler à une partie de la droite, et manifestement, elle est encore très importante au sein des Républicains, qui est un peu désespérée par la ligne centriste ou la dérive centriste des Républicains. Donc, oui, il y a une vraie proximité. Après, je trouve
ça ne va pas jouer un peu le rôle de repoussoir, justement, pour ces électeurs LR qui se disent « Ah non,
manifestement,
pas aller jusqu'à Éric Zemmour
bah, ?» Manifestement, non. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le vote, le résultat Éric Ciotti, c'est qu'il y avait plein de gens qui disaient sur les plateaux de télévision « C'est terminé, ces électeurs n'existent plus au sein des Républicains, ils sont tous passés chez Zemmour. » Mais en fait, non. Puisque ils sont là, ils sont encore là, bien présents.
Et ils ont voté.
Ils ont fait tourner la machine à cartes et ils ont voté.
Et c'est bien, c'est bien la difficulté d'Éric Zemmour qui, d'un côté, on voit, il ne parvient pas à capter l'électorat populaire qu'à garder Marine Le Pen. Et on voit bien que l'électorat filloniste qui regarde un peu, qui a regardé beaucoup Zemmour à la télévision, qui a regardé Zemmour, qui a lu Zemmour, qui a regardé l'ascension de Zemmour pendant l'automne, l'hiver venu, commence à se dire bah, peut-être qu'on va retourner au chaud chez maison. Les LR. Et ça, pour l'instant, c'est en ce moment le match qui se joue. Et le grand basculement, il pourrait être assez surprenant.
Alors, on va parler dans un instant de l'autre duel qui est à la droite de la droite entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Elle a parlé d'ailleurs des Républicains, on l'entendra évoquer le 4 quarts breton. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Bruno Jeudy de Paris Match, Louis Haussalter de Marianne, Louis de Ragnel, le chef du service politique d'Europe 1. On va écouter Marine Le Pen, parce qu'évidemment, elle s'est exprimée sur cette primaire LR. Écoutez, elle la compare aux 4 quarts bretons.
J'ai pas de réaction particulière, c'est quand même un peu le 4 quarts breton, quoi. Hein. C'est-à-dire que manifestement, y a les 4 candidats se partagent quasiment à égalité. Enfin, il y a 4 candidats qui se partagent quasiment à égalité, enfin, sauf M. Bertrand qui manifestement termine un peu plus loin en 4e position, mais se partagent les suffrages. Ça prouve qu'il y a une forme quand même de division, si vous voulez. Je suis pas sûr que pour les Républicains ce soit franchement une très bonne nouvelle de voir que leurs adhérents sont aussi divisés et qu'un candidat ne sort pas très largement en tête d'une consultation telle que celle-là.
Et réponse de Valérie Pécresse à l'encontre de Marine Le Pen.
Comme Marine Le Pen est bretonne, j'imagine qu'elle aime le 4 quarts et elle va en bouffer beaucoup. Je ne laisserai pas à Marine Le Pen le monopole, j'allais dire, de la défense des Français qui veulent de la dignité, qui veulent de la liberté, qui n'en peuvent plus de la bureaucratie, qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et qui se sentent en insécurité chez eux. Parce que ces Français-là, je vais les défendre, mais moi avec des solutions.
Voilà, pour Valérie Pécresse, elle y va cash, là. Le 4 quarts breton, elle va le bouffer. Bruno Jeudy.
Bah oui, cette bonne guerre, hein. J'allais dire, Valérie Pécresse anticipe déjà la suite et elle s'attaque aux autres candidats parce qu'elle espère être en être. Donc elle ne ratera pas Marine Le Pen et elle ne ratera pas Éric Zemmour. Elle sait surtout que, elle, ses marges de progression sont de ce côté-là. Oui. Également du côté de d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron était déjà très présent aussi dans cette primaire. Plus peut-être d'ailleurs dans la bouche de Xavier Bertrand que dans celle de Valérie Pécresse.
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen. La mauvaise, c'est que ça se passe bien pour la droite pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils se tapent pas entre eux et que on a vu dans ces débats, en fait, chacun des débatteurs pourrait être le ministre de celui qui sortira du processus. C'est pas irréconciliable. C'est pas Sarkozy, Fillon, Juppé avec les haines cuites et recuites. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Le Pen parce que la droite affichera sans doute un visage uni jusqu'à ce que d'éventuels déboires arrivent. Hein, c'est déjà arrivé. La bonne nouvelle, c'est que Pécresse n'est pas tellement une candidate, à mon avis pour l'instant en tout cas, qui puisse aller chercher très loin les électeurs de Marine Le Pen. D'abord parce que ce sont des classes populaires et que Pécresse n'a pas une image très bonne, enfin elle n'est pas particulièrement plébiscitée par les classes populaires, en tout cas à ce stade de sa campagne. Et puis c'est pas elle n'a pas le profil presque sociologique, j'allais dire, de quelqu'un qui va aller chercher l'électeur type qui vote pour Marine Le Pen. Donc je pense que Marine Le Pen gardera sans difficulté le socle de ceux qui ont fait du vote Le Pen un réflexe qui à chaque élection soit s'abstiennent soit vont voter Le Pen. Après sa difficulté à Le Pen, c'est qu'effectivement pour l'instant la droite ne fait pas d'erreur, ce processus s'est bien passé, ils auront une candidate, donc voilà, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que Marine Le Pen s'intéresse aux Républicains. Là, jusqu'à présent, elle était très très tracassée par Éric Zemmour et là tout à coup elle se dit
tiens,
ils reviennent.
Louis Dragnel.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est l'attaque qu'elle fait contre Valérie Pécresse. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours eu plusieurs sensibilités à droite. Mais la preuve de cette élection, c'est qu'il y a des gens qui ont plusieurs sensibilités, qui ont voté, en tout cas, pour quelqu'un qui représente un même parti. Donc c'est la preuve aussi que la droite peut montrer qu'elle est unie. Sinon, les électeurs se seraient partis. Hein. Honnêtement, il y a 6 mois, c'était quasiment un acte de courage de prendre sa carte aux Républicains. De fait, non mais...
Alors, c'est vrai.
Objectivement, il n'y avait pas beaucoup de raisons d'espérer. Et là, de ce point de vue-là, les Républicains, c'est un pari qui est très réussi. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment deux cas de figure pour Marine Le Pen. Soit Éric Ciotti est désigné le candidat LR, et là, pour le coup, c'est une très mauvaise nouvelle pour elle, parce que, globalement, je pense qu'il est plus attirant, entre guillemets, parce que moins excessif, avec une image portée par le parti, plus mesurée, tout en disant à peu près les mêmes choses, et avec Éric Ciotti qui parle, pour le coup, beaucoup aux catégories populaires. Et si c'est Valérie Pécresse, je pense que ces marges de progression, je suis assez d'accord avec vous, ces marges de progression chez Éric Zemmour et Marine Le Pen sont assez minimes, parce qu'elles représentent souvent ce que ces gens-là, ces électeurs-là, ne veulent plus voir. En revanche, je pense qu'elle va essayer d'aller gratter plutôt du côté des électeurs, des anciens électeurs d'Emmanuel Macron, ou alors les électeurs de droite qui savent centristes, qui savent pas très bien où ils sont. Et globalement, ça représente quand même, il y a énormément d'électeurs. Hein, encore, on a souvent on se dit que c'est une tranche de camembert toute fine, mais en fait pas du tout. Hein,
quelques millions d'électeurs.
Ah bah il y en a beaucoup. Hein.
Enfin, si on se base sur la primaire de 2016.
De toute façon, c'est simple.
Ce sont les électeurs sur lesquels Emmanuel Macron compte. Donc en fait, Édouard Philippe qui est désigné, il y aura une bataille, mais à main nue, pour récupérer ses électeurs. Donc là-dessus, ça va être très intéressant à regarder comme observateur politique.
Il y avait deux stratégies, vraiment, au moins pour la présidentielle. Il y avait celle d'Xavier Bertrand, qui était d'aller reconquérir plutôt l'électorat populaire, classe moyenne, province, un peu celle qui a voté pour lui dans les Hauts-de-France, qui était sa stratégie et qui lui calculait, disait, les bourgeois qui sont en gros partis chez Macron, on les fera pas revenir, et ça c'est mort. Et Valérie Pécresse, elle pense, peut-être sur la base de ce qu'elle a fait en Ile-de-France, son créneau, je peux récupérer les déçus du macronisme, c'est son pari, donc cette bourgeoisie qui trouve que le compte n'y est pas sur le régalien, qu'on peut aller plus loin.
Ce qu'elle a fait au régional, ce sont des macronistes.
Donc c'est sa stratégie à elle. Donc, et là, manifestement, celle de Xavier Bertrand, on la verra pas se déployer.
Et les électeurs de Bertrand, ils vont se reporter sur Pécresse sans coup férir ?
Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il va y avoir un peu de démobilisation chez Xavier Bertrand, parce que lui, il avait ses réseaux à lui, qui sont très différents de ceux de Valérie Pécresse. Donc, il y aura de la démobilisation. La question se pose plus pour Michel Barnier, parce que Michel Barnier, d'abord, c'est quand même la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Il y a beaucoup d'adhérents. C'est la troisième région un peu en poids électoral dans ce congrès. Et c'est vrai que là, Laurent Wauquiez, l'électorat de Laurent Wauquiez, c'est quand même aussi un peu Ciotti. Ça, c'est pas très, très loin. Hein. Je peux... sans difficulté révéler à l'antenne que Laurent Wauquiez a envoyé un message pour exprimer sa fierté, sa félicitation à
Éric Ciotti.
Si vous le révélez, là.
Et Nicolas Sarkozy a appelé Valérie Pécresse.
Et Nicolas Sarkozy, ça vient de tomber aussi à appeler Éric Ciotti, figurez-vous.
Éric Ciotti, voilà, évidemment.
On vient de l'apprendre.
Mais il a appelé aussi, il y a eu aussi un contact avec Valérie Pécresse.
Oui. Absolument, elle nous l'a dit il y a quelques instants.
Ce qui va être intéressant, c'est de voir que font les électeurs de Michel Barnier. En fait, il y avait un électorat assez étonnant, Michel Barnier. Il y avait à la fois des gens qui étaient encore très attachés. Il y en a encore au sein des Républicains à l'Union européenne, construction européenne, dont on a peu parlé, mais ils existent. Et puis, il y avait un électorat assez conservateur qui se disait, il a fait sa mue, il propose son référendum, il est dur sur l'immigration. Et puis, les gens se disaient, il a une gueule de président, il fait président, on l'a beaucoup dit. Donc, je pense qu'il n'y aura pas du tout un report mécanique de Michel Barnier vers Valérie Pécresse, d'autant plus que, lors de tous les débats, ceux qui se sont le plus écharpés, ce sont Michel Barnier et Valérie Pécresse.
Il y a des raisons d'en vouloir.
Et je peux vous dire que tous les militants de toutes les chapelles les Républicains, de tous les candidats, ont suivi avec beaucoup d'attention les débats, et donc les électeurs de Michel Barnier, il y en a beaucoup d'entre eux pour qui voter Pécresse, ça va être compliqué.
Pécresse a beaucoup gagné dans les débats, en réalité. Là où Michel Barnier apparaissait comme favori des militants, mais elle n'a pas fait de faute, et puis en fait, elle a misé la crédibilité, parce que je pense qu'elle s'est dit, après tout, tout le monde a à peu près le même programme, à quelques nuances près, on vient d'en parler. Elle a insisté sur le côté, moi je suis aussi une technicienne et pas qu'une politique, les dossiers, je les connais, et donc les mesures dont on est tous en train de parler et sur lesquelles on est tous à peu près d'accord, je serai la meilleure pour les appliquer. Là où Xavier Bertrand se concentrait uniquement sur des attaques personnelles contre Emmanuel Macron, et là où Michel Barnier a fait des prestations un peu poussives, là où il était au début du processus, plus le favori du canal militant, quelque part. Et là où Ciotti, et c'est là où son score n'est pas étonnant, a tenu la ligne adhérent. Et d'ailleurs, quand on parlait de Zemmour, à mon sens, l'erreur qu'il n'a pas faite, c'est de dire trop de mal d'Éric Zemmour. Là où ses concurrents ont beaucoup, quand ils étaient interrogés sur le sujet, ils ne le faisaient pas de gaieté de cœur, je pense, parce qu'ils savaient les risques qu'il y avait à prendre. Mais Ciotti a été cohérent dans le fait de tenir la ligne militante de la droite dure et du coup d'en tirer la conséquence de ne pas dire de mal
jusqu'à ce soir même Zemmour. Continuer à dire qu'il voterait Zemmour.
Le tout dans tous les cas que ce congrès a montré une chose et ça devient récurrent maintenant, c'est presque une règle, c'est-à-dire quand même celui qui prend la main, en l'occurrence ceux, c'est-à-dire Pécresse et Ciotti, qui prennent la main sur le premier débat, confirmé au deuxième débat, finissent par remporter. Ça avait été le cas en 2016 lorsque François Fillon est apparu rapidement comme celui qui faisait le trou dans les débats. C'est important finalement dans ces primaires, dans ces congrès, c'est important
le poids des débats télévisés est devenu
finalement très important.
Américanisation de la vie politique.
Oui, puis parce qu'il donne une impression et ensuite la campagne s'installe avec cette première impression. Et si le deuxième débat est de la même nature, après il s'échappe.
Un petit pronostic chacun. Il nous reste 1 minute 20. Qui va gagner samedi? Bruno, jeudi.
Ce sera Valérie Pécresse, je pense.
Le score?
Le score?
Ouais. 60-40.
63-37.
Alors, Louis Dragnel.
Moi, je m'étais tellement trompé, si vous voulez, pour la.
Que vous allez vous apprendre.
Les écolos, ça n'a rien à voir. Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, je m'étais totalement trompé.
Donc,
je pense que ça peut être très serré parce qu'il y avait des choses qui paraissaient évidentes chez les écolos. Alors, c'est pas du tout la même composition politique, mais. Toutes les surprises sont possibles. Regardez,
Réponse de Normand, là, mon cher Louis, mais c'est pas grave. Allez.
Attendez, on aurait fait la même question hier soir sur la désignation des deux sortants
vrai.
De ce soir.
Je
pense qu'il y aurait eu beaucoup de surprises.
J'ai dit
qu'Éric Ciotti serait
dans le ticket.
Voilà.
Et moi, j'ai dit
que je me suis pas trompé.
Bon, bah,
Pécresse, 67, 2/3 des voix.
Bon, très bien, voilà. Voici pour vos pronostics. On les vérifiera dès lundi soir. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce punchline. Merci à toutes les équipes techniques qui ont réalisé cette belle émission où il y avait à la fois Valérie Pécresse et Éric Ciotti sur le plateau de Europe 1 et de CNews. Merci beaucoup les garçons. Dans un instant, c'est Mouloud Achour pour Vermeen Underground. Et aussi, il y aura les informations avec Alexandre Lemaire. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.